Mon père était doué pour les traits d'esprit et les jeux de mots. Un jour comme ça, à table, il m'a dit « Je préfère le vin d'ici que l'eau de là. » Ha, ha, ha. Moi aussi, j'aime les belles tournures de phrases et j'essaye d'utiliser un vocabulaire riche et des expressions imagées. Un prédicateur a dit « On peut être fier de sa race, fier de sa face, mais aussi fier de la grâce. » Certains croyants s'enorgueillissent du fait d'être sauvés car ils pensent être les objets d'une attention particulière du Tout-Puissant. Ce n'est pas faux, mais certainement pas une raison d'être fier. Comme je dis quelquefois, on ne peut entrer dans le royaume des cieux qu'à plat ventre par la petite porte de derrière. Si le grand apôtre Paul a pu dire « de moi-même », je ne me glorifierai pas sinon de mes faiblesses. Je suis sûr qu'aucun d'entre nous n'a la moindre raison de gonfler la poitrine. Nous sommes tellement tordus que l'orgueil peut pointer sa tête monstrueuse à tout instant. Les gens religieux en particulier trouvent très naturel de se glorifier dans leur humilité. J'ai plusieurs noms au bout de la langue, mais au lieu de les citer, je vais continuer à lire dans le second chapitre du livre de Sophonie. Tournez-vous donc vers l'Éternel, vous, tous les humbles du pays, vous qui faites ce qui est droit, cherchez à accomplir ce qui est juste, efforcez-vous d'être humble, peut-être serez-vous mis à l'abri au jour de la colère de l'Éternel. Verset 3. Le prophète joue ici sur la signification de son nom qui veut dire « celui que le Seigneur cache ». Sophonie s'adresse plus spécialement aux Israélites pieux du royaume, ceux qui sont humbles dans le sens qu'ils se sentent dépendants de la grâce de Dieu. Cette exhortation est tout aussi valable pour les non-juifs qui cherchent à plaire à l'Éternel. Sophonie veut encourager toutes les personnes bien disposées à l'égard de l'Éternel à se tourner davantage vers lui. Dans la pratique, cela signifie accomplir méticuleusement ce qui est juste devant Dieu et envers son prochain. Et deuxièmement, adopter une attitude de soumission envers l'Éternel. Alors peut-être que le jour du jugement, Dieu mettra les personnes pieuses du pays à l'abri en les cachant de manière à ce qu'ils ne soient pas massacrés avec les impies. Le psalmiste écrit « Il me cache sous sa tente dans les jours du malheur. Au secret de son tabernacle, il me tient abrité sur un rocher. Il me met hors d'atteinte. » Lors de l'invasion de Juda et de la prise de Jérusalem, des multitudes furent sommairement exécutées, c'est vrai. Cependant, beaucoup de petites gens furent également laissés sur place et les envahisseurs leur donnèrent même des terres avec l'ordre de les faire fructifier afin que le pays ne devienne pas stérile et inculte. D'autres furent emmenés captifs à Babylone et on peut dire sans risque de se tromper que le voyage n'a pas dû être de tout repos. Mais une fois installés en Babylonie, les Israélites ont pu mener une existence relativement tranquille et même se lancer dans les affaires. Leur qualité de vie devint même un peu trop confortable. En effet, après que les Juifs aient reçu du roi perse Cyrus l'autorisation de retourner au pays, de reconstruire Jérusalem, ils ne se sont pas bousculés au portillon. Zorobabel, prince de Juda et chef politique, n'a pu réunir que 50 000 colons pour le suivre et refaire de Juda une nation. Il faut dire aussi que les perspectives n'étaient guère brillantes. Après un voyage éreintant, ils furent accueillis par un champ de ruines et une population païenne antagoniste. Jusqu'à présent, Sophonie a surtout annoncé le jugement des Israélites de Juda parce qu'ils pratiquent l'idolâtrie ou sont indifférents à l'Éternel. Si la plupart d'entre eux ne l'ont pas totalement abandonné, leur dévotion est partagée entre les divinités des nations qui les entourent et le dieu de leurs ancêtres, qui se trouve ainsi réduit au rang de petits dieux qu'on place sur une étagère et de bons dieux à qui on fait appel en cas de besoin. Finalement, les Israélites sont des jouisseurs qui sont prêts à rendre un culte à n'importe quelle idole qui leur accorderait la prospérité. Le peuple élu ne connaît donc plus l'Éternel. Pour eux, c'est un talisman, une patte de lapin qui fait office de porte-bonheur. C'est aussi comme ça que le considère l'immense majorité de nos contemporains, y compris certains bons chrétiens évangéliques. Sophonie condamne plusieurs catégories du peuple, les grands qui abusent de leur pouvoir et les riches commerçants qui ne croient pas que l'Éternel intervient dans les affaires des hommes. Mais le jugement de Dieu fondera sur tous les coupables où qu'ils soient. Pour illustrer le châtiment à venir, le prophète utilise le jour de l'Éternel, jour grand et terrible, quand Dieu déchaînera sa colère. Le langage de Sophonie est particulièrement imagé et explicite, à faire dresser les cheveux sur la tête. Il parle d'un festin qui sera offert par l'Éternel à une nation ennemie qui viendra se repaître de Juda. Il utilise l'image des ténèbres qui enserreront le royaume de Juda et produiront l'horreur, l'épouvante, la détresse et la destruction. Cependant, la possibilité d'échapper au jugement existe encore pour les humbles qui reconnaissent qu'ils ont besoin de l'Éternel, qui lui font confiance et vivent selon la justice. Nous arrivons maintenant à une nouvelle section du livre de Sophonie, où il va être question du jugement des nations. Ce passage nous rappelle que le Dieu du ciel demande des comptes à tous les peuples de la terre. L'Éternel n'est pas une divinité locale, mais le créateur de tout ce qui existe, le Dieu unique et vrai. Or, nous habitons chez lui, et tant que nous sommes sur sa propriété, il a son mot à dire sur la façon dont nous menons notre vie. Or, il a établi des règles qui constituent la partie morale de la loi de Moïse et qui s'appliquent à l'ensemble de l'humanité. Les règles qui étaient d'ordre religieux ou cérémoniel, politique ou national, avaient été données spécifiquement au royaume théocratique d'Israël. Mais toutes celles qui ont une dimension morale, comme les 10 commandements, à l'exception du sabbat, concernent chaque être humain et Dieu entend bien qu'on les respecte. Dans toutes les cultures existe la notion du bien et du mal parce qu'elle est innée au cœur de l'homme. Certes, elle peut varier considérablement d'un peuple à un autre. Chez les cannibales et chasseurs de têtes du Pacifique Sud, manger un ennemi fait partie des us et coutumes de la tribu. On peut s'élever contre cette pratique, mais avant de les traiter de sauvages arriérés, il faut savoir que ces mêmes indigènes ont un haut sens de l'honnêteté. N'importe qui peut laisser ses biens n'importe où, même des objets de valeur comme des armes ou des outils, et il peut être sûr qu'il les retrouvera car aucun indigène n'y aura touché. En France, on ne mange pas les gens qui nous déplaisent. Mais si par inadvertance, vous oubliez votre sacoche quelque part, 5 minutes plus tard, elle aura disparu. Et si vous allez déposer plainte au commissariat, on vous dira « Mais mon bon monsieur, vous plaisantez. Faites le deuil de votre argent et fouillez les buissons des environs et peut-être retrouverez-vous votre sacoche et vos papiers. » Qui sont les sauvages? Maintenant, Sophonie va annoncer le jugement de Dieu aux Philistins qui habitaient au sud-ouest de Juda, aux Moabites et aux Ammonites qui étaient à l'est, aux Éthiopiens au sud et enfin aux Assyriens au nord. On trouve une prophétie similaire chez d'autres prophètes. Je continue maintenant à lire le texte de Sophonie. Gaza sera abandonnée, Ascalon sera dévasté, les habitants d'Ashdod seront chassés au loin à l'heure de midi, Ekron sera déraciné. Verset 4. Midi était l'heure de la sieste, car c'était le moment le plus chaud de la journée et le moins propice à une attaque. L'heure de midi signifie donc soudainement et de manière inattendue. Le pays des Philistins faisait partie de la terre promise par l'Éternel à son peuple. C'était une plaine ondulée située entre 15 et 30 mètres au-dessus du niveau de la mer. Elle s'étendait sur 55 km de long et faisait de 16 à 26 km de large. Les quatre villes citées par Sophonie sont parmi les cinq principales des Philistins. Le prophète Amos les mentionne également. Si Gath, la cinquième grande ville, ne figure pas dans la liste, c'est probablement parce qu'elle se trouvait alors sous la domination de Juda. Ces villes sont citées en allant du sud au nord. Gaza était la ville la plus au sud de ce territoire côtier, puis venait Ascalon, Asdod était au nord et Ekron plus au nord et à l'est. En hébreu, le sort de ces villes est décrit sous forme de jeu de mots par une assonance entre Gaza et abandonné et entre Ekron et déraciné. C'est comme si nous disions quelque chose comme « Gaza sera gaspillé, Ekron sera écrasé ». Tous les habitants de Gaza furent déportés par les Babyloniens et la ville entièrement abandonnée. Alexandre le Grand la repeupla. Elle tomba ensuite dans le giron de l'Égypte avant d'être entièrement rasée par le grec Antiochus III le Grand. Le souverain le plus important de la dynastie Séleucide de Syrie. Souvent reconstruite et rasée, la Gaza actuelle, qui a donné son nom à la bande de Gaza, se trouve sur une colline composée de l'accumulation des ruines des villes précédentes. De l'antique ville d'Ascalon, qui fut reconstruite entre autres par Richard Cœur de Lion, il ne reste que quelques ruines occupé par des buissons épineux et habité par des lézards et des hiboux, un lieu sinistre qui sert de repère aux chacals. Ekron est un petit village qui fait partie du territoire d'Israël. À proximité de l'antique ville d'Ashdod, les Israéliens ont construit un port, une raffinerie de pétrole, ainsi que de nombreuses habitations. Je continue le texte de Sophonie. Malheur aux habitants des côtes de la mer, au peuple venu de la Crète, car contre vous se fait entendre la parole de l'Éternel. Malheur à Canaan, pays des Philistins, je te dévasterai et je te viderai de tous tes habitants. Verset 5. Le mot Canaan signifie basse terre. À l'origine, c'était le nom de la Phénicie et du pays des Philistins. Quant au mot Philistin, en langue éthiopienne, il signifie « émigrant » et « philistine » a donné le mot « Palestine ». Les Philistins qui se sont établis sur la côte méditerranéenne du pays de Canaan étaient originaires de l'île de Crète, aussi appelée « Caftor » dans les Écritures. Suite à l'oracle de Sophonie, c'est le pharaon Necho II qui fut le premier à dévaster la Philistie. Je continue le texte. La région de la mer servira de pacage, de grotte pour les bergers et de parc à moutons. Ce district va échoir aux survivants du peuple de Juda. Ils y mèneront paître leurs troupeaux. Le soir, ils se reposeront dans les maisons à Ascalon, car l'Éternel, leur Dieu, interviendra pour eux et changera leur sort. Versets 6 et 7. La ville d'Ascalon sert à désigner l'ensemble du pays des Philistins. Il y aura si peu d'habitants qu'il sera simplement annexé par Israël. Après le passage des Chaldéens, les Israélites survivants, très pauvres, seront autorisés à rester au pays. Ils subsisteront alors grâce à l'agriculture et à l'élevage. Il en sera de même de ceux qui reviendront de l'exil babylonien. Ce qui fut autrefois le pays des Philistins leur servira de pâturage où ils feront paître leurs troupeaux. Littéralement, le texte dit que l'Éternel, leur Dieu, les visitera et les ramènera de captivité. Dieu visitera a souvent un sens négatif de jugement, mais ici, cette expression veut évidemment dire « bénira ». Il est intéressant de remarquer que Sophonie prophétise non seulement la déportation des habitants de Juda, mais aussi leur retour d'exil. Depuis Moïse, la promesse constamment réitérée par les prophètes est que Dieu sauvera toujours un petit reste de son peuple et qu'il le rétablira dans son pays. Cependant, l'accomplissement final et définitif de cette prophétie sera de nature spirituelle et aura lieu lorsque le Messie établira son royaume millénaire. Je continue le texte. « J'ai entendu les propos insultants des Moabites et les outrages des Ammonites qui insultaient mon peuple et qui s'agrandissaient aux dépens de son territoire. » Verset 8. Les Moabites et les Ammonites étaient deux peuples issus du neveu d'Abraham qui s'appelait Lot avec ses deux filles. Comme leur fiancé avait péri dans Sodome et qu'elles désiraient une descendance, deux soirs de suite, elles ont fait boire du vin à leur père afin que chacune d'elles puisse avoir des relations sexuelles avec lui. Cette curieuse histoire est racontée dans le livre de la Genèse. Ces deux peuples avaient toujours eu une attitude belliqueuse envers Israël dont ils étaient apparemment jaloux. Les Moabites, en particulier, étaient d'un orgueil extrême et les Ammonites ne valaient guère mieux, ce qui est souligné dans plusieurs passages de l'Ancien Testament. Quand les Hébreux sont arrivés aux portes de la terre promise, Balak, roi de Moab, avait engagé et acheté le prophète Balaam afin qu'il maudisse Israël. Plus tard, pendant la période sordide des juges, les deux nations essayaient constamment de subjuguer les Israélites. Ici, Dieu leur reproche leurs propos insultants et leur attitude expansionniste. Dès que les circonstances leur étaient favorables, ces deux peuples faisaient la guerre à Israël afin d'étendre leur territoire. On peut toujours se dire qu'à cette lointaine époque, c'était de bonne guerre. Pas vraiment, parce que c'est l'Éternel qui avait fixé les frontières de son peuple, ce qui veut dire que les violer et renier une partie de son pays, c'était comme empiéter sur les plates-bandes du Tout-Puissant, une très mauvaise idée. Je continue le texte. « Aussi vrai que je vis, déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, Dieu d'Israël, Moab sera comme Sodome, les Ammonites seront comme Gomorre, leur pays deviendra un lieu couvert d'orties, une mine de sel et une terre dévastée à perpétuité, le reste de mon peuple les pillera, oui, ce qui restera de ma nation en prendra possession. » Verset 9. L'expression « aussi vrai que je vis » sert à exprimer la certitude. Dieu attache son existence même à la vérité de sa déclaration. En se proclamant le Seigneur des armées célestes et le Dieu d'Israël, l'Éternel dit qu'il est d'une part capable de mettre ses menaces à exécution et d'autre part prêt à punir le mal qui a été fait à son peuple. La sévérité du jugement qui frappera les Ammonites et les Moabites sera semblable à celle qui a effacé à tout jamais l'existence de Sodome et Gomorre, une tragédie qui eut lieu au temps de leur ancêtre Lot, le neveu d'Abraham. L'un des châtiments de Moab correspondra à l'une de ses fautes. Comme il a voulu s'étendre au détriment d'Israël, il perdra son pays. Amman, capitale de la Jordanie, est un mot dérivé du nom de l'ancien territoire d'Ammon, mais aucune de ses anciennes villes, ni celle de Moab, n'a été reconstruite. Ce sont des amas de ruines qui témoignent de la véracité de la prophétie de Sophonie. À cause de la proximité de la mer morte, ces espaces mornes regorgent de sel, ce qui les rend impropres à l'agriculture. Comme d'autres prophètes, Sophonie annonce que le territoire d'Israël s'élargira au-delà des frontières prévues par l'alliance avec Abraham. Il inclura alors les pays d'Ammon et de Moab, mais cela n'aura lieu que lorsque le Messie établira son règne 2000 ans. Je continue. Cela leur adviendra pour prix de leur orgueil, car ils ont insulté le peuple de l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, et se sont agrandis à ses dépens. Avec eux, l'Éternel se montrera terrible, car il anéantit tous les dieux de la terre et toutes les nations, jusqu'aux plus lointaines, se prosterneront devant lui, chacune sur son territoire. Versets 10 et 11. Sophonie répète les raisons du jugement des Ammonites et des Moabites, puis le texte hébreu dit littéralement qu'il amaigrira tous les faux dieux. Les nations païennes ayant disparu, il n'y aura plus personne pour offrir un culte aux idoles. Kemosh, le dieu des Moabites, et Moloch, celui des Ammonites, resteront sur leur faim. Alors, en la personne de Jésus-Christ, le Messie, les hommes apprendront à révérer, à vénérer l'Éternel, et on ne l'adorera pas seulement à Jérusalem, mais dans le monde entier.